Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Le Togo accueille depuis lundi 12 mai 2025 la première conférence de l'Union africaine sur la dette publique, avec pour objectif de penser ou repenser collectivement une nouvelle architecture africaine de la dette. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, c'est Selon. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du Club de la presse de ce jour sur Canal FM. Le Club de la presse, une émission consacrée au regard des éditorialistes, des journalistes et des chroniqueurs. Comment perçoivent-ils l'actualité togolaise, africaine et ailleurs dans le monde? On en parle. Nos confrères nous livrent leur point de vue dans cette émission. Le Club de la presse du jour, en studio déjà, installé ici avec moi. Monsieur Claude Assiogo, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue au club.
Oui, merci beaucoup.
Voilà, autour du plateau, nous avons également Monsieur Eric Johnson. Monsieur Eric, bonjour.
Bonjour, chers amis, bonjour, chers collègues, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, je vous salue.
Oui, bienvenue au club.
Merci.
Tout à fait, Isidore Color, le DP du journal Actu Express, bonjour.
Bonjour, le suppléant.
Bienvenue au club.
Oui, bienvenue. Oui, et bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà le décor ainsi planté. Merci de nous suivre à travers nos radios relais. Vous pouvez nous suivre justement par le biais de la radio Lumière du côté d'Anéro, Radio La Paix à Tapané. Ceux qui sont à Sokodé, vous pouvez sur le club de la presse sur Radio Central FM, nos amis de Baga, c'est sur Sama FM, et aussi Sky FM à Badou. Bienvenue, bienvenue au club. Mesdames et messieurs, Courtoisie FM, c'est à Dapaon. Pour tous ceux qui se retrouvent du côté du Septentrion, vous pouvez nous suivre sur la radio Courtoisie à Dapaon, et puis nos radios en ligne, Ibn Radio et Les Bénin Radio. À la technique Thomas Datévi, et puis la mise en ligne, lui s'appelle Akuta Gérodo. Microphone, je me nomme David Aboati. Et toi, tu d'Arlène, ni veux ni clos. De vieux béton, vous deux, mais c'est comme ça, la déclinaison de mon nom. Après, je suis là justement pour remplacer aujourd'hui Pascal Lousou pour l'aider un petit peu, parce que Pascal a perdu son père dans la nuit profonde.
Oh là là.
Ah mais tout à fait, c'est ce qui s'est passé. La mort n'avertit personne. C'est pour ça que il y a un grand savant qui a dit tout homme qui naît est trop vieux pour mourir.
Pour mourir, oui.
Nos condoléances les plus attristées déjà à Pascal. Beaucoup de courage à lui, c'est pas évident. Vous savez, quel que soit l'âge du parent, c'est toujours difficile de supporter une mort aussi subite. Hein. Je crois que Pascal nous écoute depuis là où il se trouve. Et nous l'accompagnons, hein, nous le soutenons, nous disons une fois encore condoléances à toute la famille éplorée.
Tout à fait. Isidore, un mot à l'endroit du papa de Pascal.
Je suis sidéré, choqué de cette mort subite. Et ça n'arrive qu'aux hommes. Hein.
Ouais.
C'est le père qui enterre le papa. Ou
le fils qui enterre.
C'est le fils qui enterre son papa ou sa maman.
Ouais.
C'est une grâce.
Mais parfois, c'est difficile à supporter.
Mais difficile à supporter parce que vous ne vous y attendez pas. C'est tout le problème. Donc, et là où il se trouve, je m'envoie à tous ceux qui passent dans le club de la presse pour lui demander nos soutiens. Et vivement qu'il puisse tenir. C'est une grâce. C'est une grâce.
C'est ça.
Je ne sais quel âge son papa a jusqu'à présent.
De toute façon, il sera là avec le programme bien établi. Puis on
mais peu importe, de... mais si on dépasse les 70, c'est déjà une grâce.
Ouais.
C'est déjà une grâce.
Ouais.
Nous qui sommes ici, moi j'ai dépassé la soixantaine. Je peux mourir du jour au lendemain.
Ouais. Surtout lorsqu'on est africain. L'espérance de vie.
Et ce que je voulais ajouter. Merci à toi.
Oui, merci. À toi aussi.
David,
ouais.
De prendre la relève de façon prompte.
Ouais, ouais, ouais.
Je suis surpris. Prompte et spontané. Et je m'attendais à un journaliste. Vous et moi, on se connaît.
On se connaît très bien.
Nous étions animateurs de programme.
Tout à fait. Merci, Gido.
Avant de devenir journaliste.
Tout à fait. Monsieur Claude, moi, à l'endroit
du peuple. Oui, bien sûr. Nous sommes tous en deuil, naturellement, par la familiarité qui s'est spontanément créée. Les condoléances, nous les lui dirons de vive voix. C'est un devoir. Merci.
Un devoir et le décor ainsi planté, nous allons entamer de vive voix les sujets à l'ordre du jour. Monsieur Claude, je resterai toujours avec vous pour continuer la chronique sur vos livres, vos différents livres. C'est vrai que vous avez eu à débattre avec Pascal la semaine écoulée sur les faits historiques et fictions togolaises. Alors, la dernière fois, vous avez eu à faire la synthèse des œuvres littéraires que vous avez analysé en lien avec le thème et promis aujourd'hui une ouverture sur des essais historiques. Monsieur Claude, mais pouvez-vous nous présenter ces essais?
Oui, il y a pas mal d'essais, mais nous avons sélectionné sur deux et que je présente. Il y a le Togo de l'époque allemande du professeur Pierre Ali Napo. Il est décédé. Feu. Pierre Ali Napo, le Togo de l'époque allemande. C'est publié aux éditions Saint-Augustin Afrique. Et un livre collectif des universitaires dont je peux citer des noms de tête de liste comme le professeur Gaïba, le professeur Gouakwe, le professeur Kadanga et le professeur Cham. C'est un livre collectif étudié Manuel d'histoire du Togo.
C'est
ces deux livres-là, j'ai vu les Togolais à les avoir dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque. De quoi ça parle? Le premier nous fait découvrir le Togo dans toute sa laideur coloniale, les fondations, l'agrandissement, les collaborations, ne pas dire les collabos, les résistances, la décision des vrais chefs traditionnels pour fabriquer de faux chefs au format allemand, et la répression, tout ça contrairement au discours nostalgique de l'allemand, du discours répandu de l'allemand bon colonisateur.
Mais
ce livre le rencontre bien.
Vous parlez justement du remplacement des bons chefs, je me permets de le dire ainsi, par de faux chefs. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à faire le distinguo qui est faux chef, qui est bon, selon vous?
Le chef, c'est naturellement quelqu'un qui représente son milieu culturel. Ça, on le sait, et c'est dynastique. Mais lorsque le blanc arrive et dit que ça ne lui plaît pas, balaye tout ça du revers de la main et fabrique des chefs, et c'est ça les faux chefs. C'est ça les faux chefs. C'est donc qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Ça, tout le monde le sait. Et ça a survécu jusqu'à ce jour. Et ça a créé même des conflits terribles dans des milieux. Et le second livre. Et ça parle des origines du Togo, même des origines mythiques du Togo, avant la colonisation, jusqu'en 2005. date de disparition du président Eyalema. En tout, c'est un livre qui regroupe 38 chapitres, flux des cours. Et j'invite les Togolais à voir ces livres, surtout le second, dans leur bibliothèque.
Oui, avoir les livres dans les bibliothèques, c'est une chose, mais arriver à les étudier, à les comprendre, est une autre paire de la main.
Oui, c'est déjà à l'intention des élèves. Mmh. Je crois que c'est mieux au programme et les élèves étudient dans les classes. Mmh. C'est déjà bien.
Monsieur Claude, au chapitre 37 du deuxième livre, chapitre intitulé « Togo, la recherche d'un consensus introuvable », mais nous lisons dans la conclusion, à la page 236, je cite, en dépit de nombreuses difficultés et mésententes qui auraient pu conduire à une guerre civile, les Togolais ont su éviter le pire. Mais jusqu'à quand ce dialogue de sourds entre partisans du pouvoir et de l'opposition? À quand justement les solutions idoines, M. Claude?
Si je vais commenter ça, bon, je crois que, au lieu de dire a su éviter, il faut dire a eu la chance d'éviter. Ah. La guerre peut vous visiter hein, lorsque vous y attendez le moins, si vous ne faites pas attention. Mmh. Mais jusqu'ici, c'est vrai, beaucoup ont fait des efforts. Mmh. Et on fait des efforts. Mmh. Et surtout, l'opposition doit continuer dans ce sens. Mmh. Il n'y a rien de pire qu'une guerre civile dans nos pays. Mmh. Vous vous ennuyez du peu, vous allez trouver le pire. Mmh. Ça, il faut vous le dire. Donc, si je peux résumer tout le paysage politique du Togo, je dirais que jusqu'à ce jour, je dirais que c'est une opposition face, une opposition au patriotisme limité, face à un pouvoir indécrottable. Mmh. Indécrottable. Mmh. Je pèse mes mots. Ah. D'abord, pouvoir indécrottable. Parce que c'est un pouvoir qui ne croit pas à ses propres objectifs de paix et de développement. Il les souhaite, certes, il les souhaite, puisque ce serait à son actif de développer le pays et d'avoir la paix généralisée.
C'est la chimère.
Il souhaite ça. Et ce pouvoir souhaite ça. Mm. Mais il ne le veut pas. Voilà ce pouvoir. Hein. Et pour des raisons que j'ai souvent hésité, il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de développement sans adhésion populaire. L'essentiel pour ce pouvoir, c'est de garder le pouvoir au moyen de saupoudrage pour éviter un désastre socio-économique fatal à tout pouvoir, même élu.
Ah, mais monsieur Claude, est-ce que vous pensez que ce pouvoir veut justement garder la part belle du lion quand nous savons très bien que récemment la nouvelle constitution nous a permis d'avoir un autre président à la tête du Togo et puis un président de conseil? Est-ce que vous pensez réellement comme quoi le pouvoir cherche toujours à maintenir son fauteuil?
Là, ils sont en train d'aller même dans le mur. Mmh. Une monarchisation en plein 21e siècle. Et moi, je crois même que ça peut sécréter des toxines à l'intérieur du pouvoir même. Mmh. Les gens ne vont pas parler, les Togolais ne parlent pas beaucoup. Hein. Mmh. Et c'est ce que moi, je crois. Hein. Mais laissez-moi vous parler aussi de l'opposition. L'opposition au patriotisme limité. Hein. Et je ne parle pas de l'opposition de cette partie accompagnateur du pouvoir dont les militants se résument au père, au fils, sans le Saint-Esprit. Hein? Je parle de l'opposition qui représente un flot d'alternance et de changement. Hein? J'ai fait un tour là-bas. Hein? J'ai été un peu militant de la 11e heure. Mais j'ai
militant de quel parti?
Je ne veux pas le dire, mais j'ai quitté tout le terrain parce que j'ai vu des choses. C'est pas ça, hein, l'engagement citoyen. Mmh. Alors, l'alternance que ces gens-là veulent, que l'opposition veut, est en deçà de l'attente de ce que attend la population. Mmh. Bien sûr, ils ne bradent pas. Pas pour autant les aspirations du peuple, hein, ils ne perdent pas. Au fond d'eux-mêmes, ce qu'ils veulent, moi je les ai observés, l'alternance qu'ils veulent, c'est la rotation des privilèges économiques à la faveur des élections transparentes pour briser le monopole des privilèges par un seul clan. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qui crée même des conflits entre eux. Hein? Leur patriotisme ne se confond pas avec notre grand patriotisme qui veut changer un peu, changement global, hein, inclusif. Et bon, je peux dire inclusif, mais ce qui le noyau dur, c'est qu'ils veulent une rotation des privilèges économiques en faveur des élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si quelqu'un arrive au pouvoir, une sensibilité arrive au pouvoir, il arrive avec les intérêts de ses amis, enfin pas ses amis, c'est de sa tribu, de ses socles. Et comme ça, ça tourne. Ah ouais, comme ça, chacun profite de ce qu'on peut appeler.
Ah mais vous, mais monsieur Claude, vous ne pouvez trouver nulle part au monde un parti politique qui, après avoir accédé au pouvoir, que ce parti ne considère pas ses partisans. Mais c'est le rôle là que joue peut-être le parti au pouvoir. Mais l'opposition aussi, dans le contexte actuel, doit pouvoir s'organiser pour pouvoir remporter les élections et aussi, et là, monter au pouvoir.
Oui, mais s'organiser, comment on s'organise? C'est les élections, c'est là où il y a la lutte même, c'est un mot de la lutte. L'opposition lutte pour une élection transparente. L'opposition, au moins, a ce mérite qu'elle ne veut pas monopoliser le pouvoir. Elle veut aller à l'exercice du pouvoir d'une façon transparente, claire. Ça veut dire qu'il y a une chose dont tout le monde doit profiter, mais il faut en profiter selon les règles de l'art. C'est ça la position de l'opposition. Hein? Mais c'est cette polarisation autour des intérêts qui crée même les frictions dans le pays et entre les partis. Hein? Ils n'ont pas encore dépassé ça. Ils vont pas encore dépasser. Mais la solution que moi je peux proposer, tiens à le dire, et il faut l'éviter parce que ça nous a posé beaucoup de problèmes.
C'est ça.
Hein? Et moi je sais que l'alternance va venir. Hein? L'alternance va venir.
Voilà, nous attendons vos solutions.
Ouais. Parce que, à force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Ça, c'est la loi de la nature. Et le pouvoir aujourd'hui même, avec sa monostilisation des choses, est en train d'aller dans les murs. Hein, et dans le mur. Et moi, je crois à ça, ça va arriver. Mais il faut éviter aussi que notre tendance à fabriquer des leaders, lorsque quelqu'un est devant, il faut le pousser. C'est ça qui va faciliter les choses. Ouais. Il y a quelqu'un qui est porté par l'opinion et vous cherchez à fabriquer un autre. Ça nous a joué beaucoup de tours depuis à Bilbao. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je peux dire.
Voilà, monsieur Isidore, est-ce que vous pensez, vous êtes du même avis que Claude, qui à sa conclusion, le Togolais ne doit pas désespérer, c'est ça?
Évidemment. Il faut vivre de l'espoir. Sans l'espoir, on ne vit plus. Je suis d'accord avec Claude. Et à quelques exceptions près. Les exceptions, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de mouchards dans les rangs de l'opposition. Et avec cette 5e République, on arrive à les découvrir, à la démasquer. Ça, il faut le marteler.
Est-ce que le mot n'est pas le mot n'est pas trop fort pour...
Pas du tout fort.
Mais les leaders sont quand même debout.
Mais on connaît les mouchards. Comme on le dit dans notre tradition, et
Jean-Baptiste Satisso, bienvenue, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Rendons grâce à Dieu.
D'accord. Et est-ce que vous aussi, vous arrivez justement à détecter des taupes, comme on a l'habitude de le dire, dans ces rangs de l'opposition? Ou bien est-ce que vous avez de l'espoir comme quoi, du jour au lendemain, vous n'êtes pas d'accord pour ce changement? Est-ce qu'il y aura un autre changement, Jean-Baptiste?
Non, je crois que le changement que les Togolais attendent, ce n'est pas encore ça, ce qu'on a vu il y a quelques jours. Hein. C'est pas du tout ça. Et c'est plus profond que cela. Et quand on parle d'alternance, le pouvoir doit changer de main. Le système doit changer pour qu'une nouvelle gouvernance arrive et qu'on puisse la comparer à celle qui a précédé. Mais on voit que c'est toujours la même gouvernance qui continue. C'est le même système. Et donc, il n'y a pas encore changement de pouvoir. c'est ce qu'on peut dire. Et évoquant le sujet concernant les taupes au sein de l'opposition, je crois que ça, c'est un secret de polichinelle. Hein. Tout le monde voit ça, que l'opposition n'est pas vraiment soudée et qu'il y a certains qui sont là et qui, ma foi, sont là pour leurs intérêts égoïstes et beaucoup, même oui, c'est ça, partisans et égoïstes d'abord et partisans et non pas ça, mais c'est que quand on analyse à fond, on a beaucoup, on a l'impression de croire que beaucoup sont des comment dirais-je, des le monde, ils ne maîtrisent pas la science politique dont on parle,
des souffrifs.
Oui, c'est ça, c'est des gens qui ne connaissent pas la matière politique, mais qui se disent politiciens, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de comportements qu'ils adoptent et qui dénotent réellement leur maturité politique. Et c'est ça qui a fait traîner leur immaturité politique, j'allais dire. Et c'est ça qui fait que la lutte a perduré pendant plus de 3 décennies. Et aujourd'hui, avec cet avènement de la 5e République, avec les élections, comment dirais-je, régionales et puis sénatoriales, on a quand même identifié certains qui ne sont pas des endurants. Hein, et ils ont fini par quand même faire ressortir leurs ambitions qu'ils avaient en portant le manteau de politicien.
Voilà. Monsieur Eric Johnson, rebonjour.
Rebonjour.
Nous savons que depuis le 3 mai, le Togo a eu à connaître des changements au sommet de l'État. On a connu l'élection d'un nouveau président de la République et la désignation d'un président du Conseil. Selon vous, c'est un changement?
Évidemment, c'est un changement. Qu'on le veuille ou non, qu'on se trouve à gauche ou à droite, on voit que c'est un changement.
Ouais.
De toutes les façons, moi, sur la question de l'opposition, je pense qu'il faut quand même que l'on revisite un peu l'histoire.
Ouais, c'est ça.
Je me dis toujours que nous avons commencé très vite à doiter des gens qu'on considère comme des taupes, qu'on considère comme des saboteurs de la lutte démocratique. Est-ce que dans un pays où vous voulez faire la démocratie, qui est en réalité le pouvoir par le peuple, pour le peuple, et vous ne voulez pas que des gens s'asseyent pour discuter, que les gens se confrontent intellectuellement et que les gens arrivent à partager des choses. On a commencé par dire très rapidement que approcher le pouvoir, c'est un crime de lèse-majesté. Les gens se disent, si tel approche le pouvoir, c'est qu'il a déjà été acheté ou il est vendu. Cette appréhension, je pense, à mon avis, c'est ça même qui fausse tout le combat démocratique. Rappelez-vous, en 1993, lorsqu'il s'est agi de la première élection présidentielle post-conférence nationale souveraine, Edem Kodjo était le candidat unique du Code 2.
Tout à fait.
Et à quelques jours de cette élection présidentielle, on a demandé au candidat unique de démissionner. Quand je me rappelle encore comme si c'était hier, des chancelleries ont eu à recevoir les leaders un à un pour discuter avec eux et leur dire clairement de ne pas faire cela. Mais ils sont allés au bout et à 3 jours de cette élection, le candidat unique du Code 2 a démissionné. Tout simplement, selon ce qu'on aurait compris, pourquoi lui et pas moi, pourquoi c'est Kodjo et pas moi, parce que tout était clair que ces élections-là pourraient être remportées par le candidat unique du Code 2. On en est là. Aujourd'hui, avec cette situation, dire encore que les gens sont des taupes parce qu'ils veulent
approcher le pouvoir, ils sont malsains, ils ont fait ci, ils se sont dévoyés et tout ça. Je pense qu'il faut arrêter ce discours-là et demander plutôt aux gens d'aller toujours au dialogue, de toujours continuer par se parler.
De collaborer.
Ah oui, s'il le faut. S'il le faut. S'il le faut. On avait demandé des gouvernements d'union nationale dans ce pays.
Un vrai. Hein?
Mais des gens ont refusé parce que ils se disaient, si je m'approchais de ce pouvoir, voilà quelle peinture on allait me faire. Et voilà comment on a eu, on a pris le temps de saboter nous-mêmes cette lutte démocratique qui chercherait l'alternance dont mes collègues parlaient.
Oui, tout à fait.
Non, je voulais, ça c'est du factuel, hein, c'est, et on va remonter plus loin. Le gouvernement de Vichy qui a collaboré avec les Allemands n'eût été l'intervention de Gaulle. Mais la France n'existerait plus. C'est ce que je voulais dire. Remontons à l'histoire. Remontons à l'histoire. Questionnons l'histoire des peuples. Vichy était instauré légalement. Il a fallu que, depuis Brazzaville, une voix s'élève pour que France devienne aujourd'hui France.
Monsieur Claude...
Non, je veux rectifier quelque chose. Il ne faut pas confondre quand même les choses. Vichy, ça c'est un autre problème.
Voilà.
C'est un pays qui a envahi un autre.
C'est ça.
C'est très différent. Et puis,
ce n'est pas une conquête, territoriale.
Mais c'est une passation de pouvoir. Mais c'est que l'approche d'Éric
voilà.
ne serait pas contestable. Et il parlait du dialogue, de tout ça. Et c'est la meilleure voie. Et lorsque les deux parties, il n'y a pas de mauvaise foi, il y a la bonne volonté, ça se termine toujours bien. C'est bien, mais là, il n'y a pas ça, la résistance devient la seule arme. Hein, c'est ça qui. Moi, je crois même au Togo aujourd'hui que ce qu'il faut, ça c'est personnel, il faut un gouvernement d'union. Et parce que souvent, nous voulons tous le développement du Togo.
C'est ça.
Le développement du Togo. Et les forces n'arrivent pas à se neutraliser. Je crois que si je vois un peu les choses, la population a toujours de la sympathie pour l'opposition. Et le pouvoir a une force.
Est-ce que vous pensez réellement que la population a encore de sympathie pour
Vichy? Oui, bien sûr.
Quand cette population n'arrive pas à répondre
mais le problème, c'est quoi? C'est que même s'ils ne croient pas à ceux qui sont des. Ils attendent encore un Godot. Et dans l'histoire, ça revient toujours. Personne ne sait que Petit Tipi allait apparaître. C'est des choses comme ça. Mais c'est que tant qu'on n'a pas une société où il n'y a pas de justice, va tomber toujours. Ce qu'il faut faire, le pouvoir veut le développement, on veut le développement. Mais la justice est incontournable. Asseyons-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Faisons un programme ensemble. Mais il faut de la une vraie volonté de la part voir. Aller dans son camp, voilà.
Non, juste pour parle de Vichy, c'est pour caricaturer ce qui passe au Togo.
D'accord.
Caricaturer.
Jean-Baptiste, vous
parce
avez
que
la
Vichy,
parole.
Le gouvernement de Vichy était là, mais pas légitime. Et c'est ce qui se passe actuellement au Togo.
Okay. Jean-Baptiste, vous avez...
Je crois que nous devons être plus concrets dans ce que nous disons avec cette histoire de dialogue au Togo. Tout le monde sait qu'il y a eu plusieurs dialogues. Mais quand le pouvoir initie des dialogues avec une mauvaise foi derrière, je crois que les résultats sont là. Et tout le monde.
Une mauvaise opinion, un agenda caché.
C'est ça, un agenda caché derrière les dialogues qui sont ouverts. Je crois que aujourd'hui, c'est un constat général que les dialogues ne donnent rien. Je crois qu'on est au 28e dialogue depuis 90 jusqu'alors. Et quel est maintenant, qu'est-ce qui a pu changer fondamentalement dans la gouvernance du pays, la gouvernance surtout politique du pays? Qu'est-ce qui a changé? Les revendications sont toujours là au niveau de l'opposition. Les revendications portées depuis 90 sont toujours sur le tapis. Donc c'est aussi pour vous dire que les dialogues n'ont pas atteint les objectifs que l'opposition se fixe de son côté par rapport au dialogue que le pouvoir a initié. Aujourd'hui, on ne peut plus parler. Bon, il est bien vrai, nous sommes dans un pays, on doit se parler. Mais chaque fois que on veut un dialogue et qu'on n'est pas prêt à faire des concessions pour que le dialogue puisse aboutir, je crois que ce dialogue ne vaille plus la. Et quand on doit quand même reprocher quelque chose à l'opposition, c'est peut-être les pots de banane que eux-mêmes ils se sont jetés durant ce parcours de 35 ans de lutte politique. C'est les pots de vin. Ils se sont neutralisés et des investisses de gauche à droite, et c'est ça que moi j'ai appelé tout à l'heure d'immaturité politique. C'est ça qui a joué en la défaveur de cette lutte. Et aujourd'hui, je crois que moi je ne suis pas de ceux-là qui quand même tout dru, vilipender ceux qui veulent collaborer avec le pouvoir. Je ne suis pas de ce genre de personnes, mais quitte à chaque acteur politique de prendre cette décision. Si vous estimez que vous êtes de l'opposition et que vous allez, on veut vous nommer sénateur, vous avez accepté être nommé par le chef de l'État, quitte à vous de l'assurer. Quand vous serez devant vos militants, s'ils vont vous poser la question, vous vous dites opposant et vous avez été nommé par celui-là que vous combattez. Est-ce que vous êtes réellement un vrai opposant ou un faux opposant? Donc c'est à eux de répondre devant leurs militants. Donc moi je ne vais pas le juger ici.
Alors, je vais dire un mot quand même. Je pense que les gens sont en train de faire un procès qui ne vaille pas la peine de faire ici. Parce que, vous savez, quand vous allez à des discussions, c'est que vous aussi, vous venez avec quelque chose. Vous y allez et quand vous arrivez, les gens aussi viennent avec quelque chose. Chacun a son agenda. Faut pas l'oublier. Et le dialogue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouver des compromis et non des compromissions. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'accepter tout ce que vous avez apporté et que la personne cède. Non, je ne crois pas que ce soit le fondamental d'un dialogue. Un dialogue, on y va avec son agenda. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'avoir son agenda. Quand vous parlez d'agenda caché, mais c'est au cours des discussions que les gens reviennent sur des choses. On a vu des dialogues où on a fait des suspensions. On a dit on revient sur des sujets bien donnés. Mais c'est comme ça un dialogue. Je pense qu'il ne faut pas quand même faire des procès d'intention aux gens à tout moment.
Nullement. Il n'y a pas de procès d'intention. Non. Le problème, c'est que les conclusions de ces dialogues, elles ont été déjà mises en place mises en œuvre et implémentées. Sinon, le Togo se serait sorti depuis.
Isidore, je dis, quand vous voulez discuter avec quelqu'un, mettez les bases.
Mettez les bases.
Du gouvernement. Par rapport à qui?
Par rapport aux conclusions.
S'il vous plaît. Très important. Nous voulons tous le développement de ce pays. Les gens ne vont pas gouverner pour que nous reculons.
Mais Voilà. Est-ce ce qu'on est en train de constater? Je suis désolé.
Ouais,
nous renoulons. Le Togo recule.
Comment?
Le Togo recule.
Comment tu peux dire ça? Sur quelle base?
On va revenir sur ça, mesdames. On va revenir sur ça.
Et ça me dit.
Claude, par rapport.
Nous sommes tous togolais.
Ouais. Claude, quelle analyse faites-vous de tout ce que vous avez eu à présenter tout à l'heure, le désespoir du Togolais? Est-ce que c'est réellement un désespoir ou bien le Togolais a toujours cet espoir comme quoi ça va aller, que tout ira de mieux en mieux tout à
l'heure? Non, il a déjà répondu. Il y a toujours le pessimisme de l'esprit. Il y a l'optimisme du cœur. Hein. Comme il a dit, on ne peut pas vivre sans espoir. Hein. Mais j'aurais aimé qu'on conclue ma chronique.
Oui, tout à fait.
Et que je vous laisse le temps à continuer. La dernière. Oui, c'est bon, parce que le débat nous concerne tous.
Ouais.
Et j'allais vous dire que nous allons clôturer le thème là, le thème des faits historiques et la fiction. La fiction togolaise.
Ouais.
Nous allons déboucher sur un nouveau thème qui sera moins politique. Le thème serait corps de femme et femme d'esprit.
Corps de femme et femme d'esprit.
Femme d'esprit. Et là, nous allons revenir à un retour sur les zones déjà visitées, mais sous le nouvel angle de ce thème. Mais nous allons convoquer d'autres auteurs de zones, par exemple Nikabou Yakadi, Fabre Bell, professeur Tchassib, les enfants de Midi, Koumélo Anaté, Frontières du Jour, Noumfaré, Rival, Douti Malène, etc., etc. Voilà, c'est tout ce que je tiens à vous annoncer.
On a tout à fait. On se retrouve très prochainement. On revient justement dans le débat. Et puis, vous le savez très bien, chers confrères, que le Togo accueille depuis ce lundi 12 mai 2025 la première conférence de l'Union africaine sur la dette publique, avec pour objectif justement de penser ou repenser collectivement une nouvelle architecture africaine de la dette. Si la technique est prête pour justement ce que nous livre le président du Conseil à l'ouverture de cette conférence. On l'écoute.
C'est un honneur pour mon pays d'accueillir à Lomé cette conférence de l'Union africaine consacrée à la dette publique sur notre continent. Cette conférence est très importante. C'est certes une conférence sur la dette, l'un des défis les plus pressants pour nos pays, mais c'est surtout une conférence sur notre avenir. En effet, derrière le mot « dette », il y a aussi beaucoup de questions politiques. Comment les nations africaines peuvent-elles financer leur développement, défendre leur souveraineté et préparer leur avenir dans un monde qui change vite et souvent sans elles? Nous nous réunissons ici dans un contexte où les règles du jeu international se transforment à grande vitesse, mais rarement au bénéfice de l'Afrique. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui poser des questions fondamentales sur ce qu'est véritablement une dette soutenable, sur ce que signifie la souveraineté financière et sur les responsabilités partagées en Afrique et au-delà. Je voudrais conclure en vous invitant à faire de la conférence de Lomé un tournant pour tracer notre chemin collectif. Un moment où l'Afrique affirme que sa priorité est certes de rembourser, mais surtout d'avancer.
Voilà, à travers cette conférence, surtout le président du Conseil du Togo est très confiant qu'au sorti de cette conférence, tout peut marcher. Et Eric, à la une de votre journal, vous écrivez « Conférence sur la dette publique de l'Afrique, les vérités de Fort Niassimbe sur l'endettement des pays africains ». Voilà. Qu'est-ce que vous voulez justement dire à travers ce titre, Eric?
Oui, je pense que en écoutant tout à l'heure l'extrait du discours du président du Conseil du Togo, Fort Essaziné Niassimbe, on comprend aisément que le service de la dette est un poids sur les pays africains. Et donc, par ricochet, toute l'Afrique. Et donc, le président Fort à essayer de faire un diagnostic du service de la dette en Afrique. Et à la fin, il a fait une proposition qui, à mon avis, est très importante. Alors, il est parti du constat qu'en Afrique, avec 54 pays, 20, sinon 23, sont des pays qui peuvent s'écrouler du jour au lendemain sous le poids de la dette. Et ces pays-là, ils les appellent des pays à haut risque, parce que ces pays-là ne pourront jamais s'en sortir, car ils continueront pas à payer les dettes, mais ils ne pourront jamais avoir le développement. Alors, le président du Conseil est allé encore plus loin en disant un truc qui m'a interpellé, moi. Il dit que les pays africains, quand ils veulent, par exemple, contracter une dette, on leur dit, il faut que votre pays soit stable. C'est dans des pays stables que nous pourrons investir, que nous pourrons envoyer de l'argent. Mais dans le même temps, quand ces pays-là font des propositions pour contracter des dettes pour leur sécurité, on leur dit niet. Alors, je pense que c'est un truc sur lequel nous devons tous réfléchir. Comment alors financer notre développement si nous sommes en insécurité permanente? Regardez un peu ce qui se passe dans le Sahel. Tous les jours, les pays sont attaqués par des djihadistes, par des terroristes. Mais comment on peut financer le développement dans ces pays qui, ma foi, sont en insécurité totale? On voit un peu ce qui se passe aussi dans le nord du Togo. Si on ne prend pas des mesures idoines, comment on peut développer cette partie de notre pays quand l'insécurité y règne? Donc, je crois que, de façon générale, le président du Conseil a diagnostiqué le problème de l'endettement de l'Afrique et finalement, pour faire une proposition concrète, comme je l'avais dit tantôt, c'est qu'il faut que les pays africains aient une stratégie collective sur la dette. Et je crois, il l'a expliqué, il pense que si nous voulons régler le problème de la dette pays par pays, on s'en sortira jamais, mais de façon collective, lorsque nous aurons une approche beaucoup plus africaine de la dette, nous pourrons quand même essayer de sortir de cet engrenage qui ne nous permet pas aucunement de se développer.
D'accord. Isidore, est-ce que vous pensez réellement que cette conférence qui est en train d'être organisée à Lomé, qui se déroule, et ça va prendre fin demain, le 14, est-ce que à la sortie de cette conférence, les pays africains peuvent justement avoir des solutions palpables, histoire de sortir ou bien de permettre à ces pays d'alléger leurs dettes?
Pas du tout. Pas du tout.
Mon micro fonctionne?
Oui, ça fonctionne maintenant.
Oui, oui, pas du tout. Je reste dubitatif. Et moi, je dis que abriter ce genre de sommet, c'est une honte. Ah oui. C'est une honte. Écoutez, mais quand on parle de dette, il s'agit de quoi? J'ai besoin d'argent. Je vais chez David, dis que bon, aide-moi à faire tel projet. Mais je n'arrive pas à régler. C'est ça. Revenons au béaba de la chose. C'est une honte pour les Africains d'abriter un tel sommet. Est-ce à dire que le Togo est plus entêté que les autres pays africains? Je me souviens, avant les années d'indépendance, nous avons un PIB plus élevé que les Singapour et la Corée du Sud et autres. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? C'est ça le problème. Moi, j'ai honte de ce genre de sommet. je n'attends rien de ce qui se passe actuellement au Togo. Mm-hmm. Sinon, c'est la honte nationale. Je vous dois de l'argent, mais est-ce que on a besoin d'un sommet pour en parler? Non, je paye. Attends, mais je vais payer. Donc, je prends l'argent pour entretenir
Mais il faut parfois être ensemble pour définir les modalités de.
Non, les modalités de paiement, vous les avez connues avant de souscrire. C'est comme si je prends, exemple, vous allez à FUSEC pour prendre de l'argent. On vous dit que chaque semaine, vous devez verser 5 000. Vous avez pris l'argent, non? Mais si vous ne respectez pas, mais c'est Atik Gang qui vient vous prendre. C'est ça. De façon schématique pour les Togolais. Qu'ils comprennent. Nous sommes endettés. Nous avons pris de l'argent. Nous n'avons pas investi dans des circuits rentables. Et aujourd'hui, on nous poursuit. On veut crier que faire des charamiades non, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Vous avez pris l'argent, remboursez l'argent.
Jean-Baptiste Atissio, pourquoi le choix du Togo pour abriter cette conférence? Est-ce pour dire que le Togo est un pays stable qui doit. Quels sont les critères sur lesquels on s'est basé pour choisir le Togo pour abriter cette conférence?
Bon, moi je ne saurais répondre puisque je ne suis pas membre du gouvernement. Ouais, peut-être le ministre des Affaires étrangères serait peut-être le mieux indiqué, ou bien encore le ministre de l'économie et des finances.
C'est ça.
Ce serait plus indiqué pour répondre à ta question. Mais à ce que moi je sache, peut-être le pays a une longue histoire en ce qui concerne l'organisation de pareils sommets. Peut-être c'est ça qui a milité en sa faveur. Mais peut-être. Avant d'aller dans le vif du sujet, ce qui frappe à la première vue hier à l'ouverture de cette rencontre panafricaine, c'est peut-être, on peut dire, peut-être un échec diplomatique de la part du Togo parce que il était.
Ça, c'est la faute.
C'est ça. Il était quand même prévu l'arrivée de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, mais finalement, c'est seulement le Ghanéen d'à côté qui a fait le déplacement.
C'est un cousin.
Oui, donc ça, peut-être il a été le seul à accepter, parce que justement, le sommet, même aussi, on doit avoir bonne mémoire, c'était prévu pour avril, je crois. Mais ça n'a pas eu lieu en avril, et c'est maintenant que cela a lieu. Et je crois que l'événement concernant cette 5e République a peut-être découragé un certain nombre d'invités. C'est pourquoi ils n'ont pas quand même répondu à cet appel. Sinon, de par le passé, on a quand même eu la présence de beaucoup de chefs d'État et de gouvernement à de pareilles rencontres. Mais hier, décidément, on n'a vu qu'un seul chef d'État qui a pu faire le déplacement. Donc ça, c'est un échec diplomatique pour le Togo. Mais revenant au contenu de cette rencontre, bon, il est bien vrai que les États peuvent se regrouper et penser à comment trouver des solutions pour leurs endettements. Mais une question reste posée et quand on parle de dette, ça veut dire qu'il y a eu des emprunts. Alors, l'argent que ces États empruntent, quelle est la destination de ces emprunts? C'est la première question qu'il faut se poser. Alors, l'argent emprunté va où? Où sert à faire quoi? C'est la question fondamentale qu'on doit se poser. Parce que chaque chef d'État est tenu de répondre devant sa nation. Ce que l'argent que nous empruntons, nous l'utilisons pour telle fin et
à ces populations d'y croire ou de ne pas y croire. Mais aujourd'hui, ici, chez nous, au Togo, si c'est, comme c'est notre cas qui nous intéresse, avant de penser au plan africain, alors, en 20 ans, de pouvoir pour Fornia Singbe, je crois qu'il y a quelques jours, l'une de ses proches a sorti un document où il est mentionné sur les 20 ans, comment. C'est ça, bon, comment l'appelle-t-on? Oui, oui, c'est
son,
ça.
Son bilan?
Oui, son bilan, avec plus de 15 000 milliards de francs comme emprunt, et on ne sait pas réellement ce que ça, ce à quoi cela a servi. Et aujourd'hui, la dette du pays dépasse largement les 70% du PIB qui sont fixés par, comment l'appelle-t-on, l'OCDE pour pouvoir mesurer la soutenabilité. Parce que tout à l'heure, dans son discours, il disait justement qu'est-ce qu'on entend par soutenabilité de la dette. Ce n'est pas seulement aux pays africains que ce taux-là est fixé. Ce taux est fixé pour juger tous les pays par rapport à leur taux d'endettement. Donc,
leur capacité,
c'est ça. Donc, c'est-à-dire à demander à avoir d'autres financements. Parce que si vous dépassez ce seuil de 70% de votre PIB, on estime que, les financiers estiment que vous n'êtes plus capable d'avoir d'autres dettes parce que vous ne gérez pas bien vos sous. Donc, il n'a pas quand même à se poser la question. Sinon, cette norme, ce n'est pas destiné à appliquer au Togo ou encore moins aux pays africains, mais c'est au niveau international que ce taux-là est fixé. Donc, c'est à chacun, à chaque chef d'État de se poser les réelles questions. Sinon, notre pays, avec tout ce que, avec son arrivée, les 20 ans de pouvoir, combien d'autoroutes ont été construites, combien d'infrastructures, si on prend les hôpitaux, les écoles,
les marchés,
combien on en a eu dans notre pays, et si ce n'est peut-être quelques mois où certains centres de soins ont commencé par être réhabilités. Sinon, franchement, quand on fait un bilan objectif, je crois qu'il y a à revoir en ce qui concerne les dettes que nos pays contractent.
Oui, non, le Togo, c'est pas le Togo seul. Hein. Ça, il faut mettre du bémol. Et c'est pratiquement.
Je n'ai pas dit le Togo seul.
Non. Je ne. Laisse-moi évoluer.
Voilà, évoluer.
Oui, Zidane. C'est pratiquement l'ADN des pays africains. S'endetter n'est pas un crime. Mais il faut voir dans le quotidien de vos
compatriotes
ce à quoi la dette a servi. Les États-Unis d'Amérique sont les pays les plus endettés. Mais tu sens, quand tu es américain, tu sens la dette dans ton quotidien. Et c'est ce que nous reprochons à nos États africains.
Tout à fait.
Pas particulièrement le Togo. Vous vous souvenez? Au temps de Gumbo, on a annulé les dettes. Heureusement, je pensais que les gens vont demander aujourd'hui qu'on annule les dettes. Oh, mais écoutez, on ne va pas nous prendre au sérieux. On ne va pas nous prendre au sérieux. On a enlevé à annuler la dette.
En
2009.
Oui.
Et aujourd'hui, nous sommes les pays les plus endettés. À quoi ça a servi cette dette?
D'accord, Isidore, Eric Donson.
Je pense que on est en train de schématiser de manière trop simpliste ce qu'est une dette. On parle de la dette d'un État et non de la dette des individus.
Non, laissez-le parler, Eric, vous avez la parole. Avancez. Un, s'il vous plaît.
Tu veux me poser une question? Vas-y.
C'est un facteur schématique.
C'est ce que j'ai dit.
Non.
Maintenant, quelle est la question qu'il pose?
Il faut
bien suivre tout ce que nous disons.
Isidore, s'il te plaît, c'est moi qui pose la question. Eric, vous avez la parole.
Je pense que ce dont il s'agit ici, les dettes sont contractées effectivement pour des projets bien définis.
C'est ça.
Alors, quelle est la situation de ces pays africains qui n'arrivent pas à rembourser leur
dette. Ouais.
Vous imaginez, nous comptons sur quoi, par exemple, pour contenter une dette? Parce que quand vous voulez prendre une dette, on vous demande quand même des garanties.
Ouais.
Nous avons suffisamment de garanties. Mais nous ne contrôlons rien. Et c'est ce que le président du Conseil disait hier.
Ah bon?
Il disait qu'il s'agira de définir une stratégie collective.
C'est ça.
C'est à nous, Africains, de définir ensemble une doctrine partagée sur la dette qui nous permette de parler d'une seule voix dans les enceintes internationales. C'est cette voix commune qui pourra contribuer à la réforme de l'architecture financière mondiale. Quand je vais encore plus loin, il dit, l'Afrique n'est pas en quête d'assistance.
C'est ça.
Elle est en quête de marge de manœuvre. Mmh. Ça veut tout dire. Quand vous prenez les coûts des matières premières qui ne sont pas fixés par les pays africains, vous imaginez ce que ça renvoie dans les caisses des pays africains. Mmh. Quand nous allons sur le marché de la dette, nous empruntons pour financer des projets sociaux, pour financer des infrastructures. Mais comment rembourser ces dettes-là si nous n'arrivons pas à avoir un PIB qui nous permette de le faire? Nous travaillons pour pouvoir développer nos pays, avoir de la plus-value et pouvoir financer cet endettement. Mmh. Mais nous n'y arrivons pas. Mmh. Et si cela ne concernait qu'une partie des pays africains, je pense qu'on dirait que ces pays africains-là n'arrivent pas à gérer, à se gérer. Mmh. Mais cela concerne la majorité, pratiquement tous les pays africains. Mmh. Et je crois que cette conférence-là a sa raison d'être. Mmh. Nous sommes dans une situation que nous vivons tous ensemble. Réfléchissons là-dessus et trouvons la solution idoine pour pouvoir peser de tout notre poids au plan international et pouvoir nous en sortir. Je crois que c'est l'objet de cette conférence-là qui se tient à Lomé. Et la conclusion... Quand le président du Conseil disait qu'il faut quand même que nous ayons notre souveraineté financière et que nous arrivions à avancer et à financer notre développement, je crois que c'est très important de comprendre cela. Et je crois que c'est ce que les pays africains sont en train de chercher. De l'autre côté, excusez-moi pour finir. Pour finir,
il faut laisser plus de 10 minutes.
Oui, tout à fait.
Il fait plus de 10 minutes.
Allez-y,
Eric.
Je pense que, en ce qui concerne la présence de certains chefs d'État, je crois qu'il y a une conférence... également en Côte d'Ivoire, également au Bénin. Et donc, les gens, je crois, ils ont choisi où y aller. Et de l'autre côté, cette conférence-là, il y a plusieurs ministres des Affaires étrangères et plusieurs ministres des Finances qui sont représentés, qui représentent en tout cas les 54 États de l'Afrique.
Merci beaucoup, Eric.
Ça, c'est... Je pense qu'il a raconté... Ce n'est pas de lui. Hein. Il ne fait que rapporter qu'on se comprenne.
Voilà.
Mais au-delà du discours qu'on nous a servi, il faut les remettre en question. Ça, c'est notre rôle de journaliste. Un emprunt ne peut pas financer un secteur social.
D'accord.
Laisse-moi terminer, non? Ça veut dire quoi? Un emprunt doit servir à des secteurs productifs où vous pouvez rentrer dans les fonds et au mieux...
Les besoins sont énormes.
Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais permets que je termine, non? Si un État...
Mais quand moi je parlais, toi tu riais. Mais là, moi, je parle.
Il faut rire.
Moi, non, je veux pas rire.
Il faut rire.
Je veux pas rire.
Donc, bon, et
vous prenez, vous voyez, vous voyez.
Parlez des formes. Je suis dans ma maison et je dis que je n'ai pas de moyens pour la popote.
D'accord.
Donnez-moi de l'argent pour un emprunt pour venir acheter les vivres. C'est ça le social.
D'accord.
Et c'est un échec.
D'accord, c'est compris. C'est compris. Isidore, il y a d'autres personnes qui sont au bout des ondes, justement, pour contribuer à l'évolution de l'émission. Nous allons observer, faire un clin d'œil à nos annonceurs et puis on revient dans le débat.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous revenons dans le débat, en ouvrant les deux lignes pour les auditeurs qui sont en train de nous suivre et qui veulent participer à l'émission du jour. 90 86 35 35 ou bien le 91 36 63 75. Les deux numéros fonctionnent. La première personne en ligne, allô.
Allô, bonjour Canal FM.
Bonjour.
Oui, c'est Nestor depuis Agoué.
Nestor, vous nous suivez depuis Agoué?
Oui, oui.
D'accord.
Oui, je voulais remercier les analystes de journaliste sur le plateau, remercie aussi nos dirigeants qui font tout pour que le développement soit partagé au Togo.
D'accord.
Mais je voulais dire qu'aujourd'hui, en voyant la géopolitique et ce qui se passe dans le monde, c'est les accords bilatéraux qui marchent maintenant. Ce n'est plus une action commune. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup.
Merci Nestor. Du côté de Guenivé, les accords bilatéraux marchent beaucoup plus selon lui. Alors, quelqu'un d'autre en ligne, bonjour.
Oui, allô, bonjour Pascal.
Oui, vous allez bien?
Oh, je vais bien, c'est Évangéliste. Hein.
Évangéliste, vous êtes dans quel quartier?
Ah, je suis à Guidogong.
D'accord.
Bon, merci aussi pour le plateau.
Ouais.
Voilà. Moi, je voudrais m'intéresser un peu la conférence que le président Fogna Singbe, le PC plutôt, quoi, est en train d'être organisé actuellement à Togo-Lomé, concernant le pays endetté. Vous savez, mes chers journalistes, il n'y a pas un pays dans le monde entier qui est développé sans les prêts. Je vous en le réitérer. Il n'y a pas un pays du monde qui se développe sans les prêts. Et c'est normal aussi. Je donne un exemple de la Côte d'Ivoire avec Ouattara. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas loin du Maroc. Hein. Mais c'est tout cela, c'est les prêts. Bon, je reviens chez nous au Togo, le pays de mon frère, la Fogna Singbe. Mais hier, j'écoutais sur une chaîne, là, je crois que c'est la club de presse, là, c'est la Canal FM, on parlait de 800 milliards. Mais je me pose la question, 800 millions de 800 milliards. Alors que mon cher pays, le Togo, ça ne semble même pas qu'on a fait des prêts à 800 milliards et le Togo est toujours au dépotoir. Vous voyez, pas, je me pose la question si ces prêts-là que nos dirigeants togolais font là, c'est dans leur poche ou bien ils ont caché ça quelque part.
Bon, d'accord.
Vous comprenez? C'est possible. Bon, maintenant, les ressources du pays. Aujourd'hui, nous avons le phosphate, nous avons le pétrole. Hein, ok. Si tu n'es pas encore hospitalier, mais tout le monde sait qu'il y a le pétrole au Togo. Tout ça là, l'argent là, c'est où? Le tiers aussi qui fait des milliards. Mais ça dit que ce n'est pas normal.
D'accord.
Donc, je voudrais lancer un appel à nos dirigeants. Aujourd'hui, ils parlent de 5e République. Il faut que vraiment, qu'on sente que hein, le Togo fait des prêts. On ne peut pas faire des prêts. Les gens ont fait les hôpitaux. Aujourd'hui, j'étais là ce matin à l'hôpital là, mais c'est un hôpital mouroir. On n'a même pas de route. Tout est désordonné. Non, il faut qu'on change de mentalité.
D'accord.
Que Dieu nous bénisse et qu'on a la crainte de Dieu. Merci beaucoup.
Que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup, évangéliste. Une autre personne en ligne. Allô, bonjour.
Allô.
Allô.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est Niamava.
Monsieur Niamava, vous êtes dans quel quartier?
Doumacese.
D'accord. Nous vous écoutons, Niamava.
Oui, je vous écoute. Vraiment. Et je ne sais pas si, puisque le Togo, le Ghanéen, le président Ghanéen est venu, lui aussi il a envoyé un émissaire dans la Ouest, le Togo a organisé un sommet. Est-ce que c'est pour faire les yeux à la Ouest? Pourquoi les chefs d'État ne sont pas venus? Parce qu'en désaccord avec la CDAO, pas d'interrogation. Maintenant, c'est pour semer de la Mbouyamini Je vais emprunter le mot de M. Sassou Gaou dans la tête de Togolais. Monsieur, il ne parle de la souveraineté de la de monétaire. Mais on a assassiné le premier président. Pour quelle raison? Vous voyez combien d'années on a reculé le pays en arrière en assassinant Sylvain Soumaré. Vous voyez? On dit que le coût des matières premières, M. Eric, à qui l'a fait? Qui devait fixer ce coût? Hein? Ne nous voilons pas la face. Donald Trump nous a dit, nos chefs d'État ont construit des maisons là-bas, ils envoient leur école aux États-Unis. Il va les rapatrier en Afrique.
Oui.
Nos chefs d'État ont imaginé le PC à l'investiture pour voir la voiture. Au moins, la voiture, là, son vente, on peut rembourser certaines dettes.
Mais il a besoin quand même d'une voiture pour circuler.
Mais imaginez, on crie qu'on est endetté, mais imaginez les dépenses qu'on fait, des dépenses folles. Non, franchement, disons-nous la vérité. Ça ne rentre pas dans le panier de la ménage. Donc peut-être c'est pour dire aux chefs d'État, surtout à son voisin, le voisin ghanéen, qu'il faut privatiser la société de l'État et laisser la gouvernance. Bonne émission.
Merci beaucoup, monsieur. Il y a ma voix, une autre personne. 90-86-35-35. Allô?
Oui. Bonjour.
Bonjour.
C'est Pélé.
Appelé, vous êtes dans quel quartier?
Doulassamé.
Doulassamé, d'accord.
Ok, bon. Pour le sujet de Bati, vous parlez de l'opposition. Des fois, il y a des troupes et l'opposition ne s'organise pas bien. Moi, je ne vois pas le débat. À ce côté. Le débat là où c'est le débat, c'est là où comment le pouvoir en place organise les élections politiques. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser au pouvoir en place. Celui qui gère le pays, c'est lui qu'on voit. Quoi. Si vous prenez 30-35 minutes, si c'est le débat sur les élections, c'est nul. Parce que le pouvoir en place n'organise pas. Vous parlez tout à l'heure des élections en 1993, où l'opposition est partie, mais. Deuxième semaine, c'est réussi, tout ça là. Mais en 98, c'est quel opposant qui a empêché Awanana de proclamer le résultat? Quel opposant qui a empêché Awanana de proclamer le résultat et a amené le général le même de venir proclamer le résultat? C'est dans quelle constitution ça se trouve? En 2005, tout ce qui s'est passé, en 2020, comment on a pris le char pour bloquer le bénéfice d'Adéon? Tout ça, là, ça fait partie de la Constitution. C'est là où il faut aller. C'est ce débat-là pour l'opposition. L'opposition gagne les élections, mais ne gagne pas le pouvoir. C'est là où il faut amener le débat. Il y a des vrais journalistes.
Mais l'opposition n'a jamais été proclamée vainqueur par la CENI, monsieur.
Voilà. Pourquoi on encercle un opposant et pas les autres? Il y a tous les candidats. Il y a 7 candidats qui étaient aux élections. Pourquoi ne pas encercler les 6 candidats restants?
D'accord.
C'est là où se trouve le faire le débat. Comment il faut faire? Bon, quand vous parlez de la dette de l'Afrique, là, vous ne pouvez pas être dans un pays où une minorité s'accapare la richesse du pays, où on fait la surfaction de l'organisation et on va vous prêter de l'argent.
Monsieur Pélé, on a compris l'essentiel de votre intervention. Une autre personne entend au bout des ondes. Allô?
Oui, c'est Jean Mavoqué, bien. Deux mots. C'est pour caricaturer le. La dette togolaise, la minorité qui s'appare des biens de l'État et le rapport de Niakade. Merci.
Merci beaucoup. 90-86-35-35, allô.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour le plateau.
Bonjour.
Je me nomme Benoît, je vous appelle d'Angoué.
Benoît, depuis Angoué, d'accord, nous vous écoutons.
Moi, je voulais dire le sommet là, organisé par l'IA. Ou bien s'organiser par le Togo et appuyer par l'IA. C'est vraiment dommage que l'IA organise, quelque chose, non pas à son siège, à son siège, mais à Lomé, et on ne voit que deux chefs d'État. Il faut d'abord, on ne peut pas parler du finance sans parler des chiffres. J'ai cru entendre le président Ghanéen parler des chiffres, mais pour le Togo, non. Avant de faire des prêts, il faut faire le bilan. Il faut savoir ta capacité, ce que tu as. Il faut donner le bilan, les ressources, ce que ça donne à ta population. avant d'aller faire des prêts. Mais revenir nous faire des discours, on ne sait même pas si le Togo produit. Le chef d'État devait nous dire si le Togo produit du pétrole, oui ou non. Ou bien combien rapporte le phosphate par an. C'est le chef de l'État, il est le chef du garant des ressources du pays. Il ne peut pas, on ne peut pas nous donner des. Qu'est-ce qu'on a tiré avec la conférence?
Bonne journée à vous aussi, M. Benoît. Appelez-nous au 90 10 86 35 35.
Allô.
Bonjour.
Oui,
à qui est-ce l'honneur?
Basile.
Basile, vous êtes dans quel quartier?
Le Basito.
Le Basito, d'accord.
Non, moi, je ne comprends pas quand les gens viennent. On n'a pas s'attaquer à ce qui est en train de gangréner, de pourrir la ville togolaise. Mais le fait que il y a des gens qui ne peuvent pas quitter le pouvoir dans tous les pays où c'est le cas, il n'y a pas de problème. Depuis combien d'années que nous avons fait les élections dans ce pays? Et qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas d'élection possible que vous voulez venir pouvoir, il doit avoir les morts. Pourquoi est-ce qu'on va venir au studio et dire le conseil de ce que nous voyons? Parce que je ne comprends pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce qui est quand même constant que nous disons fait, on sait qu'il y a quelqu'un ou bien un groupe qui ne peut jamais quitter là où il est. Mais dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas des animaux, des bêtes. Nous sommes quand même bons, bah, que c'est eux qui doivent toujours s'imposer à vous. Et qu'on attaque, c'est ça comme ça. Parce que c'est comme ça.
D'accord.
Sinon, c'est des gourdins, c'est des quoi, je ne sais pas, on va dire.
D'accord. Donc,
on vient nous dire ce qu'on ne doit pas venir nous dire ici.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Basile. Une autre personne. Allô. Bonjour.
Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et monsieur Koufi.
Monsieur Koufi, vous êtes dans quel quartier?
Nkafou.
Nkafou, d'accord.
Oui. Moi, je viens de dire que le pays recule, hein. Oui, le pays recule. Si je prenais le bas du maïs à 300 francs et maintenant je dois le prendre à 1500, 2000 francs, l'haricot à 4000 francs, assommé par les taxes et les impôts, aujourd'hui, le pays recule.
Est-ce que c'est le pays fondamentalement qui recule ou bien c'est nous qui ne voulons pas pratiquer l'agriculture pour cultiver ces produits-là?
Avec des roues? Avec des roues?
Ah ben, c'est avec les roues on faisait ça, et puis le maïs se vendait à 300 francs le bol.
Oui, oui. Et on n'envoyait pas ça à l'étranger non plus. Il y avait Togo Grain. Il y avait une politique. Oui. Je reviens aux dettes. Pour les dettes, on n'a pas besoin de faire des études économiques pour comprendre ce que c'est qu'une dette. Hein. Surtout, on ne parle pas d'aller emprunter chez quelqu'un à la maison. Quelqu'un donnait là-bas tout à l'heure un exemple de microfinance. Vous allez là-bas, on va vous demander des cautions. Oui. Pour contracter une dette, vous devez payer la dette. Et ainsi même, comment vous allez utiliser l'argent-là?
Oui, monsieur Koufi.
Vous revenez, vous mangez ça, vous dépensez comme vous voulez.
Oui, monsieur Koufi, même dans les institutions de microfinance aujourd'hui, on forme les gens par rapport aux dettes quand vous contractez
monsieur,
les dettes.
Monsieur, laissez-moi vous dire ce que j'ai à dire d'abord.
D'accord.
Je vous dis, vous allez dans une microfinance pour prendre de l'argent, vous avez, on vous demande des cautions morales, des personnes morales qui vont vous aider à bien utiliser l'argent. Et ça, après, vous devez payer. Vous ne payez pas? C'est la gendarmerie ou la police. Et on va parler de dette d'État, on va vous dire que c'est différent. Hein? Vous allez contracter une dette au nom d'un État. c'est pour en faire bon escient.
D'accord.
Très bien. Merci. Vous pensez que le président Ghanéen viendra là-bas dire que c'est une minorité, oh, j'ai fait des bêtes et c'est une minorité qui s'est accaparée de cela? Hein? S'il vous plaît.
D'accord.
On n'a pas besoin de faire des études, je ne sais pas, en économie pour vraiment externer le, ce qu'on appelle une dette. Hein.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, M. Kofi. On reçoit la dernière personne. Allô?
Oui, je reviens. David. Basile revient.
Oui, d'accord, nous vous écoutons, Basile.
C'est vrai, il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes parce que ce qu'on constate, c'est comme une dette qui nous faut. Ce n'est pas pour faire quelque chose au Togolais. C'est pour amadabiner dans leur marque personnelle, dans des pizzas, dans des trucs là, et puis, qui pour voir si on peut acheter tel ou tel journaliste. Et il va venir raconter par lui durant toute une émission.
D'accord.
Moi, je ne comprends pas.
D'accord. Merci beaucoup, M. Basile. Et merci à tous ceux qui ont souhaité s'exprimer dans cette émission. Mais le temps est très court. Nous allons faire le dernier tour de table et clore l'émission du jour. Isidore?
Non. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention des Togolais qui nous ont suivis. Et je respecte leur opinion. Et qui pratiquement rejoignent mon point de vue. Et seulement dire que nous ne sommes pas là pour raconter nos vies. En tant que journaliste ici, chacun vient porter sa ligne, pas la sa ligne, etc., sa façon de voir
les choses.
Les choses.
Ouais.
Il faut qu'on se départisse de ça.
C'est
un sacerdoce.
Ouais.
Personne ne nous paye ici pour venir faire le débat. Donc, de grâce.
C'est pas notre vie qu'on raconte.
Ah ouais.
C'est ça.
Et te féliciter pour avoir assumé au pied levé cette tranche. Félicitations.
Merci, David. Merci, Zido. Jean-Baptiste.
Oui, merci beaucoup. Je reviens sur un certain nombre de remarques que les auditeurs ont fait. Et d'abord, je félicite M. Pellet.
M. Pellet, oui.
Oui. En ce qui concerne la lutte démocratique que l'opposition togolaise mène, nous saluons cette lutte, mais qu'il souffre que quand il y a des écueils, des faux pas que l'opposition pose, qu'on l'humilité intellectuelle oblige de reconnaître ces faux pas qui sont posés durant ces 35 ans de lutte. Parce que tout n'a pas été comme sur une roulette. Il y a eu des écueils, des pas que certains acteurs politiques de l'opposition ont posés qui ne devraient pas poser. Mais ils ont fait ça et ça a ralenti la lutte. On doit être humble pour reconnaître là. Sinon, au niveau du pouvoir, en ce qui concerne les élections, je crois que, et tout le monde est d'accord, que la régularité des élections n'est pas un indicateur de la démocratie. La régularité des élections, on dit chaque dans ce pays-là, chaque 5 ans, chaque 3 ans, on organise des élections. Donc, ce pays est un pays démocratique. Non, ce n'est pas du tout un indicateur de démocratie.
C'est la qualité.
C'est ça, la qualité des élections. Donc, aujourd'hui, le constat est clair. Les institutions qui sont en charge des élections au Togo, la CENI, la Cour constitutionnelle et autres, là, ce sont des institutions qui ont failli à leur mission. Les responsables ne jouent pas bien leur rôle.
D'accord.
Ça, on doit être, on doit le reconnaître. Et concernant les dettes, je crois que les causes des dettes, je crois que le sommet doit quand même poser les jalons concernant les causes. Il y a la mauvaise gouvernance qui est un élément important des taux d'endettement élevés des pays africains. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas un, comment l'appelle-t-on, la lutte contre la corruption n'est pas palpable.
D'accord.
Au Togo, par exemple, depuis 20 ans de Faure Gnassingbé, combien de gens qui ont commis des crimes économiques qu'on a quand même sanctionnés? Il n'y a pas ça.
Merci.
Alors
beaucoup.
Que le Ghanéen qui est venu à peine 4 mois, il a limogé 55 cadres.
Merci
parce
beaucoup.
Parce qu'ils n'ont pas, déclaré leurs biens. Alors, c'est ça, le pragmatisme qu'on veut de lui.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Eric.
Je voudrais d'abord dire deux mots.
D'abord, pour celui qui dit qu'il ne faut pas faire de l'économie pour comprendre la dette, je dis qu'il est en train de tromper les gens. Mmh. Il faut lire ce que c'est que la dette publique pour comprendre ce dont on est en train de parler aujourd'hui.
Voilà.
Les institutions qui empruntent de l'argent au pays le font sur la base de programmes économiques. Mmh. Ça ne se fait pas au pied levé. Les gens ne peuvent pas venir dire « j'ai besoin d'argent et on va leur donner de... » C'est pas comme ça se passe. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, mmh. avec ce qui se passe, mmh. quand on dit « tous les pays au monde mmh. sont endettés hein. », mmh. tous les pays au monde, il n'y a pas un seul pays au monde qui n'est endetté. Mmh. Tous les pays au monde, je le répète. Mmh. Il faut le dire. Maintenant, ce à quoi sert cette dette-là, c'est ça le vrai problème. Il faut que l'on essaie de diagnostiquer les problèmes que nous avons, pourquoi nous empruntons de l'argent et à quelle fin. Maintenant, après, si cela constitue un poids pour nous, comment faire en sorte que nous soyons déchargés? Parce que la vision pour l'Afrique aujourd'hui, c'est le développement.
Merci beaucoup. Comment la vision, la vision pour l'Afrique, c'est le développement. Isidore, c'est la fin justement de... Isidore, c'est la fin de l'émission du jour. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission. Merci à Eric Johnson, le directeur de publication du journal L'Union. Merci également à Jean-Baptiste de www.codiplomatique.com. C'est bien ça. Et merci également à Isidore Akolor, le député du journal Actu Express. Merci à tout un chacun de vous. On vous retrouve demain dans un autre numéro. Bye bye.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.